Vous écoutez
RMC.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Bon, ben là, c'est pas un super progrès. Anthony, parce qu'on parle des cyberattaques. Donc, on peut pas dire que ce soit un progrès absolument génial. La cyberattaque qui a touché l'hôpital de Corbeil-Essonnes il y a quelques semaines avec des conséquences dramatiques sur l'organisation de l'hôpital et puis aujourd'hui sur les données des patients qui se retrouvent dans la nature.
Eh ben, exactement. Alors, je vous donne rapidement le contexte parce qu'on avait pas mal parlé de cette histoire. Hein, l'hôpital qui s'était retrouvé complètement paralysé, hein, à la suite d'une cyberattaque. Il y a des opérations qui avaient dû être reprogrammées, des patients qui avaient dû être dirigés parce que, effectivement, tout est géré par informatique et que là, le système informatique était complètement verrouillé. Les hackers, les cybercriminels plutôt, demandaient une rançon de 10 millions de dollars, alors qu'ils avaient été revus à 1 million. Je ne sais pas trop comment ça avait été négocié, tout ça, pourquoi pas. Ils avaient fait une ristourne. Mais enfin, ils n'avaient pas été payés. Et surtout, ils avaient donné un ultimatum. Si le 23 septembre, on n'est pas payé, eh ben, toutes les données dont on a pris possession, on va les diffuser sur Internet, on va les lâcher dans la nature. Et c'est ce qu'ils ont commencé à faire ce week-end. Donc là, on a 11 gigaoctets de données qui se retrouvent sur le dark web. Alors, des données qui concernent...
Oui, nous, on ne peut pas y accéder, je veux dire.
Alors, oui, monsieur, madame, tout le monde, c'est un peu compliqué, effectivement. Mais enfin, des gens mal intentionnés, eux, peuvent y accéder. Et quand je vous dis des données, ce n'est pas simplement des données qui concernent le fonctionnement de l'hôpital, c'est aussi des données personnelles des patients, c'est-à-dire des numéros de carte de sécurité sociale, mais aussi des données médicales, c'est-à-dire des résultats d'examen, par exemple.
Vous voyez,
des
qu'est-ce que tu veux qu'ils en fassent, les gens?
Ah ben, ils peuvent en faire plein de choses, en fait. C'est un peu ça le problème. C'est-à-dire, par exemple,
Tu sais que Monsieur Dupont, il s'est fracturé la jambe droite. Bon bah.
Eh ben, je vais te donner plusieurs exemples. Premier exemple, le phishing, tout simplement. C'est-à-dire que tu vas recevoir un mail de l'assurance maladie, soi-disant de l'assurance maladie, qui va te dire, Madame Dupont, justement, vous êtes fracturé la jambe, vous avez fait un IRM de la jambe la semaine dernière. Voici le lien pour obtenir votre remboursement. Là, tu fais confiance parce que tu te dis, bah oui, c'est la sécurité sociale, forcément, ils savent que je me suis fracturé la jambe, ils ont cette information-là. Donc, c'est du phishing, du hameçonnage, mais ultra, ultra ciblé. On peut aussi s'en servir, éventuellement, dans des scénarios un peu plus élaborés pour faire de l'extorsion auprès des célébrités, par exemple, dans la liste où il va y avoir 2-3 personnes connues. Ah bah oui, tiens, il a peut-être pas envie, lui, qu'on sache qu'il a tel ou tel problème de santé. On va le contacter, puis on va essayer de lui demander un petit peu de sous. Donc voilà, c'est quelques dessins des scénarios qu'on peut imaginer autour de ces données de santé, des fausses demandes de remboursement aussi. Ça fonctionne très très bien. Ouais, c'est-à-dire que, bah oui, évidemment, vous avez le numéro de sécu, vous avez toutes les informations. Et bah vous allez, et ça, pour le coup, c'est des demandes, c'est des arnaques qui peuvent durer pendant très très longtemps. Il faut savoir que vos données médicales, c'est ce qu'il y a de plus précieux et c'est ce qui se revend le mieux sur le dark web. Ça se revend 6 à 10 fois plus cher que vos données bancaires, par exemple. Vous savez, un dossier médical complet, ça tourne autour de 350 euros. Vous savez pourquoi? Parce que vos données bancaires, elles sont périssables. C'est-à-dire qu'une fois que vous en rendez compte que vous êtes fait arnaquer, bah, vous faites opposition, terminé, vous changez de carte. Voilà. Les données médicales, ça peut être utilisé sur du très long terme avant qu'on ne se rende compte qu'il y a une arnaque et donc, bah, on peut.
Tu changes pas de corps, quoi.
Exactement. Voilà, c'est tout le problème.
Concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour se protéger? Parce que là, bon, là pour les patients de l'hôpital de Corbeil, ben non, là c'est fini,
c'est compliqué.
Protéger. Mais nous, je veux dire, voilà, monsieur et madame tout le monde, pour se protéger de ce genre d'attaque.
Alors, les patients qui sont concernés, parce qu'il y a quand même 1,5 million de personnes, hein, parce que c'est tous les patients de ces dernières années, ils vont recevoir apparemment un courrier qui va leur donner toutes les mesures à prendre. Même si vous avez raison de préciser que c'est fini. Hein. Je veux dire, une fois que le cybercriminel a fait son œuvre et que les données ont été évaporées, sont mises dans la nature, c'est terminé. Nous, ce qu'on peut faire, c'est comme à chaque fois, hein, c'est des règles de bon sens, des règles qu'on appelle d'hygiène numérique. Donc, on fait attention, évidemment, aux mails qu'on reçoit. On n'ouvre pas les pièces jointes de destinataires qu'on ne connaît pas. On ne redonne pas son mot de passe ou ses informations bancaires. Jamais la sécurité sociale ou votre opérateur téléphonique ou EDF ne vous demandera ça dans un mail. Donc, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, faites attention à ça. Les mots de passe, évidemment. Si on peut, sur des données un petit peu sensibles comme ça, utiliser la double authentification. C'est vrai que c'est un peu pénible. On perd un peu de temps.
Pénible.
Mais je sais bien. Mais au moins, sur les sites un petit peu sensibles, ça peut quand même avoir du sens de le faire et de pas mettre le nom de votre animal de compagnie en mot de passe, évidemment, qu'on va retrouver en deux secondes sur Facebook. C'est un peu problématique aussi. Et puis, si vous êtes vous-même victime de ces attaques par rançongiciel, comme on appelle ça, parce que ça touche aussi les particuliers. On prend votre ordinateur en otage, on verrouille le système informatique et on vous demande une rançon. Ne jamais payer la rançon puisque vous n'avez aucune assurance, évidemment, qu'on va vous rendre vos données.
Oui. Donc, qu'on va pas recommencer.
Non, mais il faut partir. Oui, exactement. Il faut partir du principe qu'une fois que ça vous est arrivé, bah, ça fait mal, mais c'est trop tard, en fait. Vous ne pouvez plus rien faire. Donc, prenez des mesures en amont. Sauvegardez vos informations tout le temps. Disque dur externe, sauvegarde dans le cloud. Faites en sorte que si ça vous arrive à un moment, eh bah, vous perdiez un petit peu de données, mais pas trop quand même. Voilà, parce que c'est tout de suite un petit peu embêtant. Et c'est valable pour les particuliers, c'est aussi valable pour les entreprises. J'ai surtout pour les entreprises, que c'est elles qui sont les cibles, principalement.
Merci, Anthony. On va faire attention. On va tout changer.
On peut les retrouver.
Alors, on sait qui c'est. Alors, c'est un groupe de hackers russophones. Oui, c'est hackers. Mais après, pour aller les chercher au fin fond de la Russie, bon courage. Hein. Mais oui, on a à peu près une idée, en tout cas, du groupe auquel ils appartiennent.
On fait quoi demain, Anthony ?
Ah, demain, on va parler bâtiment, maison, fenêtres. Voilà.
C'est intéressant.
Des super fenêtres.
Ah, génial. Ouais.